Robillard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Patrick Stefanini, qui publie Immigration, ces réalités qu'on nous cache chez Robert Laffont.
Bienvenue à vous et bonjour Patrick Stefanini.
Bonjour.
Vous êtes également ancien préfet, spécialiste effectivement de ces questions d'immigration. En quelques jours, plus de 8000 migrants ont rejoint clandestinement les côtes de l'enclave espagnole de Ceuta en provenance du Maroc. Ou en transitant par le Maroc, l'Espagne a évoqué une agression des frontières de l'Union européenne. Est-ce que selon vous, ce genre de crise, de situation est amené à se renouveler?
Oui, je le pense. Alors, je crois que ce qui se passe à Ceuta et Melilla, d'abord peut-être un mot d'explication, ce sont deux enclaves espagnoles sur le territoire marocain, et du coup, ce sont ce qu'on appelle des frontières extérieures de l'Europe. Donc ce sont des frontières pour l'Espagne, naturellement, mais ce sont aussi des frontières pour l'Europe, puisque les personnes qui auront réussi à pénétrer à l'intérieur de ces enclaves, ensuite, en application du principe de libre circulation, elles ont la possibilité de rejoindre le continent européen. Et la question de la maîtrise des frontières extérieures de l'Europe est une question absolument décisive, parce que nous avons choisi collectivement, nous, nos parents, nos grands-parents, nous avons choisi de construire une union politique qui s'appelle l'Union européenne, au sein de laquelle s'applique, en vertu de l'acte unique, depuis l'acte unique c'est 1986, mais son application concrète, c'est-à-dire la suppression des contrôles aux frontières intérieures de l'Europe, c'est-à-dire frontières entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Espagne, l'Allemagne et la Pologne, etc. Cette suppression, elle remonte effectivement à 1992. Et à partir du moment où on a fait ça, la maîtrise de l'immigration, elle se joue pour l'essentiel à nos frontières extérieures.
Mais est-ce qu'on l'a perdu? C'est ça la question. Parce que là, il y a un affaiblissement économique de certains pays dû à la pandémie. On pense aux pays maghrébins. L'affaissement d'États comme le Mali. Comment contenir ces flux à venir venant ou transitant par des pays comme la Tunisie ou le Maroc?
Eh bien, il faut être extrêmement ferme sur le contrôle de la frontière extérieure, parce que si on n'est pas capable de contrôler correctement ces frontières extérieures, de stopper les migrants qui s'y présentent alors qu'ils sont dénués de tout visa, de tout titre de séjour, etc. Si on n'est pas capable de les contrôler à la frontière extérieure, d'autres pays européens en Méditerranée ont des difficultés considérables. C'est notamment le cas de l'Italie. Vous savez que l'île de Lampedusa est située à 120 ou 130 miles des côtes tunisiennes. Et donc l'Italie est soumise à une pression considérable. La Grèce, elle, comporte un chapelet d'îles qui sont à 30 kilomètres de la Turquie. Et donc ces deux pays, l'Italie et la Grèce, sont soumis à une pression considérable. Le gouvernement grec actuel fait preuve de beaucoup de fermeté.
Je vous cite d'ailleurs une phrase du commissaire grec et vice-président de la Commission européenne qui dit ceci: on ne peut protéger le mode de vie européen sans protection des frontières de l'UE. C'est une question de mode de vie, selon lui.
Oui, bien sûr, parce que si, encore une fois, si nous ne sommes pas capables de contrôler correctement la frontière extérieure, alors nous ne maîtriserons absolument pas l'immigration. Et on sait qu'une immigration excessive, et la France fait l'objet, je l'explique dans mon livre, fait l'objet depuis 20 ans d'une vague migratoire considérable, qui est souvent passée sous silence, alors qu'encore une fois, elle a été considérable. Et cette vague migratoire non maîtrisée pose des problèmes redoutables d'intégration. Donc moi, je n'hésite pas à dire qu'en effet, derrière la question de la maîtrise de nos frontières extérieures, derrière la question de la maîtrise de l'immigration, il y a le sujet de la maîtrise et de la conservation du mode de vie européen.
On va en parler pour la France avec des chiffres, et les chiffres sont têtus, mais il y a la réalité, Patrick Stefanini, de ces chiffres, et puis le choc des images, comme celle d'un bébé de quelques mois sauvé par un garde-côte espagnol, et cette image a fait le tour du monde. Est-ce qu'on peut mettre de côté l'émotion en parlant de ce sujet, ou est-ce que vous dites non, on ne peut pas agir avec des images aujourd'hui, compte tenu du défi que constitue ce sujet?
Alors, les dirigeants politiques sont forcément très sensibles aux images, parce qu'ils en connaissent l'impact dans l'opinion publique. Je rappelle que la décision d'Angela Merkel en 2015 d'ouvrir les frontières de l'Allemagne, qui a marqué le début d'une vague migratoire considérable. En deux ans, 2015 et 2016, l'Allemagne a accueilli pratiquement 2 millions de migrants, et cela faisait suite à la découverte du cadavre d'un jeune enfant kurde, vous vous en souvenez?
Bien sûr, sur une plage.
Sur une plage, voilà. Donc, forcément, les dirigeants politiques sont sensibles aux images. Bon, je rappelle quand même, pour que les choses soient claires, que, et on l'a vécu d'ailleurs dans les événements de Ceuta, que l'Union européenne s'honore de ne jamais refouler dans leur pays d'origine les mineurs étrangers, autrement dit les personnes qui sont mineures, sont complètement à l'abri des mesures de reconduite.
Il y a aussi le pragmatisme, parce que par exemple, Patrick Stefanini, lorsque le haut commissaire au plan, François Bayrou, avance que pour répondre au défi d'une natalité en baisse dans notre pays et en France, l'immigration peut être un levier sous certaines conditions. Qu'est-ce que vous dites? C'est de la provocation en ce moment?
Alors, je dis que François Bayrou met le doigt sur un phénomène assez récent, qui est la baisse de la fécondité en France. Nous avions pendant longtemps, jusqu'à une dizaine d'années, une fécondité qui nous permettait d'assurer le renouvellement de nos générations, de sorte que nous n'avions pas besoin d'immigration pour des raisons démographiques. Le démantèlement par François Hollande de la politique familiale...
Démantèlement, dites-vous. Hein.
Oui, parce que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis la Libération, il y avait en France une politique familiale qui faisait l'objet d'un certain consensus politique. Et cette politique, c'était une politique en soi, c'était pas une politique sociale parmi d'autres. François Hollande a voulu en faire une politique sociale parmi d'autres. Il a voulu notamment faire en sorte que l'attribution des allocations familiales tienne compte des revenus des familles bénéficiaires. Ça, c'est une rupture complète avec ce qu'était jusqu'alors la politique.
Et quelles conséquences cela a-t-il eu?
Il est sans doute trop tôt pour l'affirmer, il faudrait plus de recul, mais enfin, il y a d'ores et déjà un certain nombre de démographes qui n'hésitent pas à dire que la baisse de la fécondité en France s'explique par la nouvelle politique familiale mise en œuvre par François Hollande. Donc François Bayrou a raison de pointer ce phénomène qui est inquiétant. Par contre, on sait de manière précise que ça a été démontré, on sait que si on veut se reposer sur l'immigration pour enrayer les conséquences négatives sur le plan économique de la baisse de notre démographie, on fait complètement fausse route. Il faudrait des volumes d'immigration absolument inouïs et sans aucun rapport avec la capacité d'accueil de notre pays pour compenser les conséquences en termes économiques de la dégradation du rapport.
Rappelons qu'après chacune des deux guerres mondiales et surtout après la première, la France a eu recours à l'immigration parce que la jeunesse française été décimé hein, sur les champs de bataille. Alors, une idée totalement farfelue.
Vous avez totalement raison. Simplement, la différence, c'est que la vague migratoire dont nous faisons l'objet depuis 20 ans, elle est sans lien avec notre démographie. Autrement dit, les phénomènes dont nous avons parlé, ils remontent à 7 ou 8 ans, alors que, encore une fois, la nouvelle vague migratoire dont la France fait l'objet, elle a pris naissance à la fin des années 90. Et au début des années 2000. Voilà, donc je pense qu'il faut, sur ces sujets, il faut parler avec précision. Ça ne sert à rien de s'enflammer. L'immigration est un phénomène naturel, c'est un phénomène humain.
Oui, mais c'est un sujet passionnel.
Mais il faut, alors c'est bien sûr un sujet passionnel, mais le rôle des experts, c'est de mettre un peu de raison dans
Comment on le fait? Parce que vous dites, voilà les chiffres. Dans ce livre, Immigration, ces réalités qu'on nous cache, vous dites par exemple, en 2000, la France a délivré 150 000 titre de séjour. En 2019, on a délivré 274 000, soit plus de 80%.
Et l'augmentation. L'augmentation a été de 83%.
Voilà. Ce qui vous fait dire qu'il y a une poussée migratoire sans lien, c'est ce que vous me disiez, avec la démographie ni l'économie. Mais moi, j'ai envie de vous demander, M. Stefanini, pourquoi elle est niée par une partie des démographes, alors cette réalité que vous décrivez?
Parce qu'il y a une partie de l'école démographique française qui, pour des raisons probablement politiques et idéologiques, s'obstine à expliquer qu'il n'y a pas de difficulté avec l'immigration en France. Et ils se servent d'arguments qui sont en grande partie fallacieux. Par exemple, ils nous comparent avec l'Allemagne. J'ai dit moi-même que l'Allemagne avait accueilli énormément de migrants en 2015-2016. Mais d'abord, depuis l'Allemagne a refermé ses frontières, et alors qu'elle avait accueilli 1 million de demandeurs d'asile en 2016, en 2019, elle a accueilli moins de demandeurs d'asile que la France. Ça, c'est le premier constat.
Oui, mais ces mêmes démographes vous disent que notre solde migratoire reste faible en France.
Oui, mais alors ça, on est à la limite, de l'escroquerie intellectuelle, parce que... Parce que le solde migratoire, il faut le décomposer. D'un côté, il y a le solde migratoire des immigrés, c'est-à-dire la différence entre le nombre des immigrés qui arrivent en France et le nombre des immigrés qui repartent. Et ce solde migratoire-là, qui est le seul qui nous intéresse si on veut analyser l'immigration, Ce solde migratoire, il est très positif. Il est très supérieur aux 50 000 personnes dont parlent certains démographes. Il est aujourd'hui de l'ordre de 170 000 à 180 000 personnes. Et par contre, il est compensé par le solde migratoire des Français, c'est-à-dire la différence entre le nombre des Français qui quittent notre territoire et ceux qui y reviennent. Et il se trouve que la France devient progressivement, pour d'autres raisons, ça c'est pas le sujet ce matin, mais devient progressivement un pays d'expatriation pour un certain nombre de Français.
Et vous réfutez donc ce que disent une partie, on dit bien une partie des démographes. En réalité, c'est ce que je vous demandais tout à l'heure, monsieur Stefanini, est-ce qu'on a encore notre souveraineté ou bien est-ce qu'on l'a déléguée à l'Union européenne, cette souveraineté sur un sujet aussi sensible qu'est celui de l'immigration ?
Alors, l'Union européenne joue aujourd'hui un rôle majeur dans la maîtrise des phénomènes migratoires. Moi, je suis moins sévère que beaucoup d'observateurs. Je remarque d'ailleurs que, s'agissant du contrôle des frontières extérieures, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu en 2020, en février 2020, un arrêt très important au sujet de Ceuta et Melilla, dans lequel elle a consacré la légitimité des autorités espagnoles à contrôler la frontière extérieure et à refouler les migrants qui tentaient, à l'époque déjà, de prendre d'assaut les grilles qui protègent les deux enclaves espagnoles. Et je crois que tout ça est une question de volonté politique.
Mais alors qui
va aujourd'hui ? Bien sûr, il y a la jurisprudence européenne.
Vous avez conseillé quand même le candidat François Fillon, mais aussi Valérie Pécresse. Pourquoi cette question reste taboue et pourquoi on ne se saisit pas, avec un volontarisme certain, de ces chiffres aujourd'hui ?
Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de consulter les Français par référendum pour leur demander un mandat clair sur ces sujets. Par exemple, pour mettre en place une politique de quotas qui serait aujourd'hui indispensable, eh bien, il faut faire une réforme de la Constitution. On sait qu'en France, il y a deux manières pour faire une réforme de la Constitution. Il y a la voie parlementaire, il y a la voie référendaire. La voie référendaire aurait le mérite de donner aux dirigeants politiques nouvellement élus, parce que je crois que c'est une réforme qui peut se faire après l'élection présidentielle, un mandat populaire clair.
C'est donc une question à chaque fois de volonté politique.
C'est largement une question de volonté politique. C'est aussi une question où il ne faut pas se tromper d'objectif. Et j'apporte dans mon livre toute une série de données chiffrées pour qu'encore une fois, le phénomène soit apprécié à sa juste valeur.
Ce livre qui s'intitule « Immigration, ces réalités qu'on nous cache » chez Robert Laffont. Merci Patrick Stefanini d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci beaucoup.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez avec nous dans un instant, un nouveau point sur l'info avec Émilie Dez et la météo de Laurent Cabrol. À tout de suite.
Europe 1, Philippe Bandel.
Tout à l'heure dans Culture Média, focus sur la deuxième saison de la série policière Astrid et Raphaël sur France 2. Nous serons avec l'actrice Lola Devers et l'acteur et écrivain Hugo Auriot. Et puis, il a été surnommé le plus jeune ténor du monde, c'est Amaury Vassili. Il nous présente son nouvel album lyrique, mais pop.
Europe 1, Culture